feu, une émission de Catobel, Angélique Tasio, Manu Van Leer.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission Plein Feu. Aujourd'hui en compagnie de Jean-Van Emmelreich. Bonjour Jean-Van Emmelreich.
Bonjour, bonjour.
Psychologue, psychothérapeute systémique, formateur en thérapie familiale et systémique, vous enseignez à l'Université libre de Bruxelles et supervisez des équipes en Belgique, en France et en Suisse. Et en Italie, voilà. Je vous propose de revenir sur vos années de formation. Où avez-vous étudié ?
Ah, je ne savais pas qu'on passait la journée ensemble, donc j'ai fait une partie de mes études à Londres, une partie de mes études à Gand, et j'ai terminé à l'ULB. J'ai donc un parcours un peu chaotique.
Pourquoi vous êtes-vous intéressé à la psychologie ?
C'est une histoire fondamentalement aberrante. Quand j'ai 18 ans, un ami proche et sincère me doit une petite somme d'argent. Et plutôt que de me rembourser, je lui dis « Écoute, puisque tu vas à l'université t'inscrire, inscris-moi ». Et il me dit « En quoi ?» Je lui dis « En histoire. » J'ai presque 18 ans. Et quand il rentre le soir, il me dit « Écoute Jean, je suis désolé, mais la file en histoire était très longue. Donc je t'ai inscrit avec moi, en géologie. » Et donc j'ai fait une partie d'études en géologie. Jusqu'au moment où je tombe sur un professeur de minéralogie. C'est très compliqué la minéralogie. Mathématiquement, c'est très compliqué. Enfin, les études de géologie, c'est compliqué. Et je réussis mon examen de minéralogie. Or, il est traditionnel de dire que lorsqu'on termine son examen de minéralogie, on a terminé ses études de géologie, le reste ne sont que des formalités. Mais ce prof, avec une finesse dont je lui suis extrêmement redevable, me dit « Jean, vous n'êtes pas chez vous en géologie, ce n'est pas pour vous. Vous pouvez le faire, vous avez le diplôme, mais ce n'est pas pour vous. » Je dis « Ah bon, je suis un peu énervé par cette... » Et il me dit, je suis désolé, ce n'est pas très gracieux ce que je vais raconter, il me dit « Mais... qu'est-ce qui vous intéresse ?» Comme ça m'énerve un peu, je lui dis « J'aime bien les femmes. » Un peu de manière provocative. Il dit « Ok, alors il faut faire la psycho. » Il m'inscrit avec ses propres deniers en psycho. Et donc, c'est de manière complètement absurde que j'ai commencé la psycho. Et en effet, c'était plutôt chez moi que... Donc j'ai une formation au départ de matheux, de chimiste et de physicien, mais qui est bien loin de moi aujourd'hui, et j'ai commencé la psycho comme ça.
Jean-Van Emmelreich, vous êtes enseignant et formateur, vous assurez de nombreuses conférences. En quoi la transmission d'un savoir ou d'une pratique vous est-elle nécessaire ?
Très très bonne question. D'abord, elle naît d'un problème langagier. C'est-à-dire que comme je ne suis pas francophone d'origine, lorsque je me mets à parler français, je parle avec la respiration néerlandaise, et donc je me mets à avoir des problèmes langagiers, je bégaye. Je ne trouve pas mes mots, je suis en souffrance au niveau du verbe. Alors je vais fréquenter beaucoup de logopèdes. Et l'une de ces logopèdes, pour laquelle j'ai une admiration sans borne, me dit « il faut que tu parles en public, tu vas apprendre à respirer ». Et donc, au début, ce sont des auditoires modestes, hein, c'est les scouts, des trucs comme ça, c'est des petits groupes d'appartenance relativement de faible ampleur. Et je vais découvrir que c'est en effet... comment dirais-je, un endroit où je soigne ma manière de parler, mais que je prends un plaisir énorme. Je prends un plaisir énorme à parler en public, à raconter des histoires. Je me targue avec peu de modestie de faire ça plutôt pas mal. Et comme tout psy, si vous voulez, le tout psy qui se respecte est animé par un sentiment particulier qu'on appelle le sentiment d'imposture. Parce que quand même, quand vous faites ce métier, régulièrement, vous vous dites « Mais qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que moi je vais pouvoir aider cette personne avec toute la... l'hésitation qui est la vôtre devant ça. » Et donc les endroits de transmission, c'est les endroits où, qui vous forcent à réfléchir, qui vous obligent à vous mettre au travail et à sortir des évidences. Et il y a un plaisir à transmettre qui est vraiment véritable, c'est-à-dire que si vous faites ça plutôt bien, vous sentez qu'il y a une vraie participation, il y a une vraie curiosité. Quand je suis petit garçon, mon père m'a transmis le désir de curiosité en me disant que tout est objet de question, tout doit pouvoir être questionné, il n'y a pas de limite. Vous pouvez me dire, je ne suis pas d'accord de répondre à vos questions, mais rien ne doit m'interdire de questionner. C'est pour ça que je suis inquiet de l'état du monde aujourd'hui. Et donc, transmettre, c'est d'abord être curieux de comment le monde fonctionne et puis comment transmettre cela. C'est pas évident, c'est une question véritable qui est posée à chaque instant et qui vous amène à devoir, aujourd'hui, être prof, c'est pas être prof comme il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Aujourd'hui, les jeunes étudiants, et ils ont raison, questionnent la manière de transmettre en disant ça ne me convient pas. Alors il y a quelques personnes qui viennent en disant « Est-ce que vous avez des clés USB, des machins, machins ?» Or moi je donne cours sans informatique. Donc les élèves doivent écouter, prendre des notes, ce qui leur semble assez bizarre. J'ai pas de slide, j'ai pas de PowerPoint, j'ai rien de tout ça. Je n'ai que ma parole, mes mots, mes situations, mon travail de transmetteur. Et donc ça les met un peu en délicatesse, et donc ça m'amène aussi à devoir travailler, moi. Donc c'est une belle rencontre, c'est une manière de rester vivant, si vous voulez, parce que on vous pose des questions, et quand on vous pose des questions, ben, votre savoir est mis en péril. Et en effet, je veux dire, la souffrance, je suis prof de psycho, la souffrance des hommes aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Donc on doit bien sûr étudier les classiques, les incontournables psy qui ont travaillé comme Freud ou d'autres de ce gabarit-là. Mais il est aussi important de se dire que tout ce qu'on trouve dans Freud n'existe plus aujourd'hui. Bien sûr, au niveau du processus psychique, mais la mise en scène de la douleur des hommes est une réinvention complète, totale. Et donc aujourd'hui, il y a des symptômes qui n'existaient pas il y a 5 ans, il y a des choses qui n'existent plus. Et donc il est important de se mettre au travail et de rester en déséquilibre permanent.
Vous disiez tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus en psychologie, et c'est vrai que c'est une filière qui attire beaucoup les jeunes étudiants. Quels critères ou quelles qualités faut-il pour faire un bon candidat en psycho ?
En tout cas, l'université n'y répond pas, puisque l'université répond à cette question par la science, alors que c'est une étude, c'est quelque chose qui n'est pas de scientifique, je veux dire. Pour réunir des qualités qui sont extrêmement délicates à évaluer à l'université, c'est très délicat, parce que c'est une drôle d'idée de fabriquer les psychologues à l'université. C'est un métier, c'est un artisanat, la psycho. C'est pas un savoir. Ce n'est pas uniquement un savoir, c'est vraiment un artisanat. C'est-à-dire comment rencontrer l'autre. Comment permettre à quelqu'un, quelle que soit la demande qu'il formule, qu'il entende, que vous écoutez ce qu'il vous raconte. Donc ça demande de l'empathie, ça demande de la curiosité, ça demande de la modestie, ça demande de l'originalité, ça demande de la prudence, de la nuance. Ça demande de l'humour, ça demande de la résistance, parce que vous êtes tous les jours bombardés de trahisons, de mensonges, de sang, de violence et d'abandon. Et donc, le recevoir ça tous les jours sur la tête, ça demande quand même d'être fort. Ça demande d'être curieux, ça demande de beaucoup de travail, parce que ça paraît un métier sans consistance, on est épuisé le soir. Ça demande de lire inlassablement, donc il faut se tenir au courant. Ça demande de la curiosité. Donc les profs à l'UNIF, une fois que les premiers nettoyages ont eu lieu, c'est-à-dire les maths, la chimie, la physique, toutes ces choses-là qui font que les rangs se nettoient, parce que l'université se veut d'être universelle, et donc on doit être doué dans tout et un peu dans tout. Donc une fois que cette premier nettoyage se fait, on voit bien qu'arriver, une fois dans les études supérieures, dans les années supérieures, ce qui va être travaillé, c'est la capacité de penser, de réfléchir, de créer du lien, de créer des associations, d'être curieux, de pouvoir désobéir, de s'autoriser, de ne pas être dans le bon sens, parce que la psycho et le bon sens, c'est pas toujours la même chose. Hein. Tout à l'heure, là, juste avant de venir vous voir, je recevais quelqu'un qui a été trahi par ses parents et qui a trouvé un bricolage pour tenir la route. Alors c'est pas classique, c'est pas dans les clous, c'est une manière de faire qui est très originale, mais qui lui a, le monsieur a 85 ans, et donc cet homme a tenu la route pendant toute sa vie, donc il faut respecter cet assemblage. Mais si vous prenez cela et si vous le développez comme ça, ça paraît incongru, ça paraît grotesque, ça paraît absurde. Mais cet homme, grâce à ce bricolage, a trouvé une manière d'être au monde qui lui a permis de traverser le temps sans trop souffrir. Et ça demande cette souplesse idéologique, cette manière de penser qui consiste pas à vouloir mettre les gens dans des clous, mais à justement toujours pouvoir sortir du cadre tout en ayant la capacité d'en poser un. Donc c'est une question complexe que vous posez. Et en plus, je crois qu'une fois que sortez de l'université, je pense qu'il faut encore 10 ans pour fabriquer un psy. Il y a beaucoup d'idées qu'on a quand on sort. On croit par exemple bêtement que les gens veulent leur bien. Hein, je vois que votre logo sur la joie se partage, je conteste. Hein, c'est très joli comme intention et je la trouve très belle, je la réutiliserai. Mais il y a des gens qui souffrent et qui ne veulent pas arrêter de souffrir. Ce n'est pas des masos. Hein, on n'a jamais croisé de maso de ma vie. Mais on est attaché des fois à sa douleur et on la tient comme une manière d'être au monde. Et donc c'est compliqué, il faut du temps pour découvrir que tout ce qu'on a appris à l'école, c'est pas mal, mais c'est largement insuffisant.
On apprend toujours dans la discipline ?
Ah, écoutez, moi je vais même à 70 balais, je suis curieux comme... Oui, absolument. Je trouve qu'il y a une créativité des hommes qui est... C'est fabuleux. je veux dire, la capacité que les hommes ont de réinventer leur manière d'être au monde en s'appuyant sur tout et n'importe quoi pour y arriver. Non, on y apprend toujours. Oui, en tout cas, je pense que le jour où je dirai « je sais », je pense que je serai bon à mettre à la retraite.
Jean Van Hemelrijk, en 2016, la publication du livre « La mal-séparation » a connu un certain retentissement. Le sous-titre de votre ouvrage indique son fil conducteur « Pourquoi on n'est pas séparé alors qu'on n'est plus ensemble ». Est-il donc possible de bien se séparer ou est-ce un mythe pour rassurer les protagonistes ?
De nouveau, je pensais qu'on passait un peu de temps ensemble et pas longtemps. La séparation est une catastrophe. Il y a des gens qui s'en sortent, il y a des gens qui s'en sortent pas. Mais en soi, c'est le jour où un homme ou une femme, ou deux hommes ou deux femmes décident de fabriquer une relation, la majorité ne se disent pas que c'est pour 5 ans ou pour 10 ans, ils se disent que c'est pour un moment sans trop savoir la durée. Avec en filigrane quand même des gens qui se disent que c'est peut-être pour un moment. Et quand on fabrique des enfants, c'est en se dire qu'on va les élever ensemble. Et donc, se séparer, c'est le drame de notre vie. Hein. Je veux dire, on se sépare de ses parents, on se sépare de ses amis, on se sépare de ses collègues, on est confronté à la perte de gens qu'on aime qui meurent. Donc toute notre vie est ponctuée par la séparation, si bien qu'une séparation conjugale n'est qu'une séparation parmi les autres. Et donc, tout va dépendre dans un premier temps des premières séparations que vous avez eues. Donc, est-ce qu'il y a moyen de bien se séparer ? Il y a moyen de se séparer sans en souffrir trop. Mais de toute manière, c'est une souffrance inévitable. Et il y a des gens qui ont tellement peur de souffrir qu'ils préfèrent se disputer, se déchirer pour éviter de souffrir.
Estimez-vous que les couples sont plus fragiles aujourd'hui ?
Non. Les couples ont toujours été fragiles. C'est par essence même. Un couple, c'est une entité instable. C'est fait pour ne pas aller bien. Enfin, c'est fait. C'est malheureusement fait pour ne pas aller bien. Pas malheureusement. On constate que ça ne va pas bien, un couple. C'est bizarre de vouloir rester avec quelqu'un durablement. On peut avoir ses valeurs, hein, mais au-delà des valeurs, dans le terme de processus, c'est un système assez bizarre. Donc, qui, par essence même, est amené à se chahuter, à se cogner, à se disputer. La pire des choses qui puisse arriver à un thérapeute de couple, c'est quand un couple arrive dans son bureau et qu'il dit « on ne se dispute jamais ». C'est très inquiétant, parce que ça signifie qu'ils n'ont jamais réfléchi leur relation. Ils n'ont jamais questionné la manière de vivre à l'autre. C'est très 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 dangereux. Donc les couples sont par essence fragiles. Et c'est ça qui en fait leur force. C'est le paradoxe. C'est que donc, en anglais, on dit que c'est un tabouret à deux pieds. Ça ne tient pas, quoi. Ça vacille inlassablement. Et donc il faut constamment inventer. Un couple n'est par essence même instable. On n'est pas à l'autre à 20 ans comme on en est à 25, à 30, à 50, en fonction de l'évolution de sa propre famille, de son travail, de la naissance des enfants, de tous les paramètres qui viennent cogner le couple et qui fait que par essence même, il est instable. Alors, certains couples ont la richesse de se dire, bon ben, on va bricoler, quoi, et en sachant qu'à tout instant, il faut remettre le métier sur l'ouvrage, comme on dit ça, ou l'ouvrage sur le métier plutôt. D'autres vont se faire l'illusion qu'ils ont une histoire d'amour et que c'est parfait, tout va bien, ces couples-là sont en danger. Je sais que c'est paradoxal. Je vois dans votre sourire que ça vous surprend ce que je dis, mais il y a plein de moments de bonheur, hein, évidemment. Mais il ne faut pas se bercer de l'illusion que lorsque l'on est heureux, on l'est pour toujours.
Et justement, cette illusion, vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, il y a un certain leurre du couple idéal, du couple parfait, comme on parle aussi de famille parfaite, véhiculée peut-être par les médias,
oui,
par
sûr.
Une certaine littérature.
Mais je pense que vous avez tout à fait raison, sauf sur le mot « pour l'instant ». Il y a toujours, quelque part, un idéal qui a été proposé, quel que soit le fournisseur. Et aujourd'hui, c'est les médias. Avant, c'était d'autres. L'Église a été un fournisseur d'idéal conjugal. Le fascisme a été un producteur de famille. Quand vous écoutez Pétain raconter la famille parfaite, il était un producteur d'idéal. Trump, aujourd'hui, est un producteur d'idéal de famille. C'était désastreux, assez terrifiant, assez monstrueux, mais il est un producteur d'idéal. Il y a toujours plein de fournisseurs d'idéal. Et la pire des choses, naturellement, c'est de vouloir y conforter. Et aujourd'hui, on nous vend le couple idéal. Il y a même des salons du couple, le salon du mariage, avec des, comment dirais-je, des donneurs de bonnes leçons, quoi, qui nous expliquent comment il faut faire pour être heureux, ce qui est une absurdité phénoménale. Et quand je dis c'est une absurdité phénoménale, c'est parce que j'utilise des mots modestes, parce que mon intention, ce serait de dire les choses avec plus de brutalité. Il y a toujours eu des producteurs d'idéal.
Et donc, dès qu'il y a les accros, ça peut vaciller comme un château de cartes ?
Absolument, absolument, absolument. Vous savez, un couple se mesure à la capacité de se cogner à ses déceptions. Hein, donc, vous rencontrez quelqu'un, c'est le partenaire idéal. Vous vous imaginez d'être son partenaire idéal. Vous imaginez que le couple que vous fondez est absolument idéal. Et puis, un jour, arrive la déception. L'autre ne fait pas, n'est pas... là où on attendait qu'il soit, et tout à coup son couple se déchire un peu. Et la question qu'on se pose, une fois à l'âge adulte, à l'adolescence, la déception c'est dangereux, mais une fois à l'âge adulte, on se dit, je fais quoi avec ma déception? Déception qui est mesurable à trois niveaux, hein. Je suis déçu par l'autre, je déçois l'autre, ou je me déçois moi-même. Donc c'est toute cette économie de la déception qui est complexe, hein. Et on se dit, tiens, je reste ou je pars? Et quand cette question-là surgit dans l'économie d'un couple, c'est qu'il commence à véritablement devenir un couple. Donc dans la fabrique d'un couple, la menace de la séparation potentielle, non pas que tous les matins on se dit, tiens, je reste ou pas, hein, mais je veux dire, l'idée qu'un jour la déception soit trop grande, elle fait partie de l'économie d'un couple. La pire des choses, c'est de le nier. Bon, la pire des choses aussi, c'est de la mettre tous les jours sur la place, hein, bien évidemment.
Jean Van Mellenreich, je vous propose qu'on marque une première pause en musique avec votre premier choix, David Bowie. Pourquoi David Bowie?
Ah, ça c'est toute l'histoire de mon adolescence, c'est un homme absolument extraordinaire, c'est un grand désobéissant, et j'ai beaucoup d'amitié pour la désobéissance, un homme d'une culture sans bornes, qui est en fait un handicapé, il a un problème de vue, et c'est un homme qui va, au détour de ce qu'il n'est pas, devenir un homme d'une puissance rare, donc c'est-à-dire un grand créatif, qui n'a jamais accepté d'avoir atteint une sorte de perfection quelconque. Quand il avait atteint quelque chose, il partait ailleurs. Et voilà, mes origines aussi m'amènent à ce que David Bowie fait partie, pour moi, il dépasse les Beatles, il dépasse les Rolling Stones, il dépasse tout ce que l'Angleterre a pu produire. Pour moi, c'est l'artiste anglais de prédilection.
C'est pas rien dire. Eh bien, on va l'écouter tout de suite.
Scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now.
Deuxième partie de cette émission plein feu avec aujourd'hui Jean Van Mellenreich. Vous le disiez avant cette première pause musicale, vous êtes sensible à la désobéissance. Alors, serait-elle salvatrice?
Ah, vous ne seriez pas ce que vous êtes, madame, si vous n'aviez pas appris à désobéir. Si, non, ne vous méprenez pas sur le mot. Un enfant, quand il vient au monde, je suis thérapeute de bébé et d'enfant, hein, quand vous venez au monde, votre corps ne vous appartient pas. Vous êtes porté par le geste et l'amour des gens qui veillent sur vous. Et puis, petit à petit, vous allez vous approprier votre corps. Vous allez apprendre la marche, la propreté, apprendre à dire non, enfin, toute une série, la parole, le geste, toute une série de choses. Mais, dans l'accompagnement parental, les parents vont accompagner l'enfant en le nourrissant de mille histoires, de mots, d'explications. Et prenons simplement un événement banal, un enfant fera un cauchemar une nuit, le parent, la mère ou le père va descendre auprès de cet enfant et lui dire « T'inquiète pas, cet après-midi tu as fait ceci, tu as fait cela, tu es fatigué, ce cauchemar que tu as eu c'est pour telle ou telle raison. » Et donc l'enfant se voit dans les regards de celui qui l'accompagne comme transparent. À mon parent voit à l'intérieur de moi. C'est très salvateur, ça veut donc dire que je suis un petit homme parmi les autres. Je suis comme tous les hommes, j'appartiens au groupe auquel j'appartiens, donc je suis rassuré, hein, tous les petits hommes de mon âge et tous les hommes de ma communauté font comme ça, fabriquent ce style de vie. Mais ça veut dire que je suis transparent. Et puis un beau jour, il va mentir à ses parents, tenter de mentir. Puis c'est pas terrible, ça marche pas bien. L'enfant au début, il ment relativement mal, quoi. Un enfant, un beau jour, va mentir, et on va le croire. Et là, en termes d'évolution personnelle, c'est absolument extraordinaire, parce qu'il découvre que ce qui se passe à l'intérieur de lui appartient. Donc la désobéissance à cette vertu, je ne parle pas du passage à l'acte, hein, je ne parle pas de l'agressivité, je ne parle pas de tout ce qui consiste à agresser l'autre, hein, non, pas du tout. C'est de se réapproprier son corps, en fait. Ici, j'ai une petite fille qui est soumise au stress abominable d'une belle-mère infâme, qui l'assied dans le fauteuil et la force à adopter une attitude physique stable. Et cette petite fille bouge légèrement le pied, de manière très discrète. Très discrète. Et en faisant ça, elle désobéit à sa belle-mère. Et elle dit à sa belle-mère, je ne suis pas ta propriété. C'est pas un acte, elle ne passe pas en guerre, hein, elle ne sort pas le marteau, elle ne va pas taper. Non, non, simplement, à l'insu discret, elle bouge légèrement son pied. D'un centimètre, c'est suffisant pour dire à sa belle-mère, dans sa tête, sans que sa belle-mère ne le sache, parce que ce n'est pas un passage à l'acte, c'est un simple geste de réappropriation de son corps. Et cette belle-mère essaye de modeler cette fille pour montrer à la mère de cette fille qu'elle est meilleure mère qu'elle, donc l'enfant est instrumentalisé. Et cette petite fille a bien compris les enjeux, elle a tout de suite 6 ans, hein. Elle bouge légèrement le pied. Mais quand elle est chez sa mère, elle bouge son pied aussi, comme ça elle désobéit à tout le monde, et son corps lui appartient. Et elle me raconte ça. Et donc c'est la désobéissance, c'est comment on s'autonomise, on s'approprie son corps, on s'approprie sa pensée. Hein, je veux dire, quand vous vivez avec des gens, et qu'à 5h, 6h du matin, quand vous vous réveillez, votre mari vous dit « tu m'aimes ?» alors qu'il a une haleine fétide, que vous êtes en train de vous dire tout ce que vous allez devoir faire dans votre journée et que vous n'avez pas spécialement envie de faire une déclaration d'amour à ce moment-là, ben vous lui dites oui. Vous ne lui dites pas, va te laver les dents, puis on en parle. Hein. Donc je veux dire, il y a tous ces petits moments de vie où la désobéissance à la norme permet de maintenir une certaine forme de paix sociale. Donc tous les moralistes du monde vous diront que c'est pas bien, et tous les psys du monde vous diront que c'est probablement pas bien, mais c'est salvateur.
Serions-nous dans un modèle de pensée trop codifié ?
Oh mon Dieu, oui, et les psys sont les premiers producteurs de codification, hein, je veux dire. Il y a cette dame monstrueuse qui a absolument abîmé notre culture psychologique en Belgique, qui s'appelle Maggie de Bloch, et qui a codifié même la souffrance par exemple. Hein. Donc vous avez droit à 6 semaines de deuil, point. Après 6 semaines, c'est pathologique, il faut prendre des antidépresseurs. Que vous ayez perdu votre arrière-grand-mère de 117 ans qui est morte calmement dans son lit, ou votre enfant de 6 semaines, après 6 semaines, c'est pathologique. Non, bien sûr, tout est codifié, tout est monstrueusement codifié. La douleur, les symptômes aujourd'hui sont décrits, et on calcule les pathologies en fonction de la probabilité que quelqu'un qui a par exemple 6 symptômes de telle pathologie, alors il a la pathologie, non, non. Évidemment, tout est codifié, tout est horriblement codifié. Bien sûr, les hommes sont assignés à demeure.
Vous recevez de nombreuses familles. Quelle évolution majeure avez-vous connue dans les consultations familiales ?
Bon, là, c'est une question complexe, elle est nombreuse. Les souffrances sont plus les mêmes qu'avant, les séparations sont plus rapides et on a cru que c'était une bonne idée. Et c'est vrai que l'État qui s'est retiré de la... Vous savez qu'avant, l'État se mêlait de l'intime amoureux, puisque quand vous vouliez divorcer, l'État disait non. Aujourd'hui, il dit accélérer, hein, donc c'est une très mauvaise idée dans les deux cas. Mais l'évolution majeure, c'est la recomposition familiale. La recomposition familiale qui est maintenant, on parle de recomposition familiale. Les enfants qui ont des parents non divorcés sont aujourd'hui les éléments rares d'une cour de récréation. Quand moi j'ai commencé à faire psy quand j'avais 23 ans, 24 ans, quand on était en face d'un couple divorcé, c'était une question. Aujourd'hui, quand on est en face d'un couple non divorcé, c'est une question. Mm-hmm. Donc c'est la volatilité de ces choses-là qui entraîne des complexités familiales très grandes, puisque vous avez les enfants que madame et monsieur ont fait, qui portent le nom de monsieur, les enfants que madame a fait avec un autre monsieur qui porte les noms du nom de monsieur, les enfants que monsieur a fait avec une autre madame qui porte le même nom que les enfants qu'il avait avec sa première madame, il y a les enfants que madame avait fait avec un autre monsieur, et tous ces enfants qui ont des architectures relationnelles autres se retrouvent sous le même toit, et on considère qu'ils sont des frères. C'est très compliqué d'arriver à... C'est l'évolution de la société, c'est comme ça, il y a à faire avec. Et il y a beaucoup de familles qui se débrouillent très bien avec ça, mais ça c'est l'évolution majeure à mes yeux. Cette liberté nouvelle qui entraîne des désagréments, bien sûr, comme toute liberté, comme tout changement.
Et dans une société où tout semble aller très vite aujourd'hui, où il faut se partager entre le travail, les études, le sport, les activités extrascolaires, les réseaux d'amis, ou parfois le temps aussi passé devant les écrans, on sait que c'est vraiment très chronophage, a-t-on encore le temps pour la pause, pour le ressourcement ?
Ah, si vous l'avez pas, vous mourrez. Ça s'appelle le burn-out. C'est, inévitable que si vous ne le faites pas... Vous savez, je vais faire la psycho, là. Je vais répondre comme un psychologue. C'est Heidegger, c'est un philosophe, au fond, qui pose la question. Est-ce que vous regardez la télévision, monsieur ?
Non,
vous ne regardez pas la télévision. Jamais. Vous regardez ce que la télévision produit. Donc vous regardez ce que l'écran produit. Vous ne regardez la télévision que dans deux contextes. Soit quand on vous l'a volée, là vous la regardez parce qu'elle vous dit où elle est, soit quand elle est en panne. Et bien c'est ce que font les hommes quand ils n'ont pas la capacité de pouvoir respirer, ralentir, perdre leur temps, soit ils disparaissent, soit ils tombent en panne. Et donc le burn-out, c'est un mot qui vient de la toxicomanie, burn-out. Ça veut dire que quand vous vous injectez de l'héroïne, après un certain temps, ces injections ne marchent plus. C'est au-delà d'eux. Hein, si vous buvez un litre de whisky, vous faites pipi d'un litre deux. Donc vous utilisez plus d'énergie que ce que vous avez pris. Donc vous vous videz et vous ne finissez par ne plus pouvoir. C'est quand le corps ne peut plus. Donc tout homme, toute femme, tout enfant, tout parent qui ne prend pas le temps de prendre son... Et on a tous mille raisons de ne pas avoir le temps. Hein. Je veux dire, c'est facile à dire. J'ai le derrière posé sur un fauteuil, je suis assis, c'est facile à dire. Mais si vous ne prenez pas le temps de perdre du temps pour vous... de vous ressourcer, de faire autre chose que cette course effrénée, bien évidemment, quelque part, que vous allez vers le burn-out. Ou vers d'autres pathologies qui appartiennent à la même famille, quoi. La dépression, le découragement, le désenchantement.
Est-ce qu'il y a eu un avant et un après Covid, selon vous ?
Oui. Oui. Principalement chez les adolescents. On les a vraiment maltraités. Politiquement, c'est infâme ce que le monde politique a fait avec les adolescents, parce qu'on les a rendus responsables, on les a coupés du monde. Le coût des mesures sanitaires, qui avaient un certain sens, hygiénique, au niveau de l'épidémie, au niveau des spécialistes en infection, tout cela avait beaucoup de sens, mais la manière dont ça a été fait a été monstrueux. Et donc on a invité les ados à attendre, mais on leur a pas dit ce qu'il fallait attendre. Donc nous avons des ados qui sont, beaucoup d'ados, qui sont en attente. Mais ils attendent pas quelque chose. Vous allez me dire, j'attends le train, vous m'avez attendu parce que je suis arrivé en retard. Donc vous attendez un objet, donc il y a un objet à votre attente. Donc il y a quelque part, à un moment, ce que vous attendez va venir. Les adolescents, on leur a dit d'attendre. On leur a jamais dit quoi. Et donc il y en a beaucoup qui sont mis hors jeu. Et donc dans le monde adolescentaire. Alors après, on a ce qu'on appelle un Covid long social. Et ce Covid long social, c'est tous les dégâts que cette période a entraînés qui s'expriment maintenant. Qu'on voit dans tous les gens qui ont perdu quelqu'un, d'abord de manière sauvage, on ne leur a pas permis d'aller à l'hôpital. Et donc tous les deuils qui n'ont pas été faits. Qui n'ont pas pu s'engager, qui n'ont pas pu s'ouvrir, qui restent sur des colères, donc il y a une colère qui gronde, qui n'est pas négligeable. Il y a dans beaucoup, beaucoup de domaines, et c'est devenu un référentiel économique. Avez-vous retrouvé le niveau d'activité que vous aviez avant le Covid ? Donc c'est comme si on imaginait que les hommes pourraient revenir à ce qui existait avant. C'est absurde. Le après n'est jamais un retour de l'avant. Hein. Je veux dire, on doit devenir comme après, mais pas comme avant. Or, il y a eu cette sorte d'illusion, comme ça, de retrouver un État, un pays, une nation, une manière d'être au monde qui était celle qu'on avait avant. Non. Non, non, tout à coup, le monde a pris une tournure qui fait qu'aujourd'hui, le découragement est un peu plus présent.
Pensez-vous, Jean-Van Emmeleret, qu'il soit plus difficile d'élever un enfant en 2024 qu'il y a 50 ans ? Est-ce qu'il y aurait, par exemple, trop de possibilités aujourd'hui ?
Non, la complexité n'est pas la même qu'avant, mais élever un enfant, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Les gens de mon âge, par exemple, qui voient les parents jeunes aujourd'hui, se disent « Ah, je suis très très content de ne pas devoir me coltiner les problèmes que eux se posent. » Mais leurs enfants leur poseront la même type de question. Moi, j'ai pas élevé mes enfants avec des écrans. Ils n'étaient pas là, les écrans. J'ai eu la chance de ne pas devoir me coltiner cette question. J'ai réfléchi avec mon épouse sur comment on aurait fait. Donc, chaque génération doit se débrouiller et c'est toujours difficile d'élever les enfants. Si on veut bien faire, je veux dire, si on veut être un parent attentif et inventif, ce sera toujours difficile.
Et pourtant, certains ont l'impression qu'autrefois, c'était plus simple parce qu'il y avait un cadre social peut-être plus établi, que les choses semblaient couler de soi.
Oui, bien sûr, mais avant c'était toujours mieux, bien sûr, c'était toujours mieux parce que c'était plus calme. Vous savez, par exemple, on parle de la migration, c'est un discours elle a toujours été extrêmement déstabilisante. Je veux dire, quand vous lisez les textes de Mussolini, il parle de la société comme Trump en parle. C'est le même discours, hein. Hitler, je veux dire, c'est le même discours. C'est le discours de l'invasion, c'est pas les Afghans, c'est pas les musulmans, c'est les juifs, c'est les italiens, c'est les espagnols, c'est ces gens qui viennent déstabiliser notre nation qui avant ça était beaucoup plus stable. C'est l'illusion d'une société stable. Une société n'atteint pas un équilibre. Elle tente de maintenir son équilibre. On est dans la nation belge, c'est l'État belge. Ça veut dire que le pouvoir politique est là pour maintenir les choses en état. C'est ça que ça veut dire. C'est de garantir la stabilité du processus. Je sais pas si vous savez par exemple pourquoi on met les hôpitaux psychiatriques, les prisons et les cimetières hors les villes. Hein, historiquement, on met ce qui fait...
Pour une question d'hygiène ?
Non, pour une question de santé mentale publique. C'est de mettre hors la ville ce qui fait le désordre. Hein, les policiers sont des gardiens de la paix. Il faut maintenir les choses en paix. Et on met hors les villes les cimetières qu'on entoure par des murs, relativement peu utile pour les morts, hein, c'est pour cacher la mort. On met la prison et la folie, ce qui crée des ordres, hors la ville. Les villes ont grandi. Hein, c'est de l'époque du Moyen-Âge où la peste faisait qu'on mettait les pestiférés loin. Hein, ben on a fait ça avec les fous et les morts. C'est toujours maintenir les choses en état, en éloignant. Et donc, chaque société est confrontée à cette illusion qu'avant c'était mieux, mais je crois que c'est une illusion.
Ben nous voilà rassurés alors.
Je crois que ça a toujours été difficile pour tout le monde depuis toujours. Ce qui est probablement, c'est une des perversions langagières de notre actualité, quoi, je veux dire. C'est on dit que les choses vont de plus en plus vite. Ce qui naturellement est absurde puisque le temps ne va pas plus vite qu'avant. Hein. Si vous faites du 120 à l'heure ou du 40 à l'heure, il faut toujours une heure pour faire les 40 km. Donc c'est la quantité d'événements. La quantité d'événements sur une heure qui est augmentée. Et ça, naturellement, c'est le problème actuel de cette surcharge. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un match de tennis à Wimbledon, à la pause, où les joueurs s'asseyent et prennent un peu d'eau et reprennent leur souffle. Le gardien du temple leur dit « Silence, calmez-vous, parlez discrètement, éloignez-vous du terrain pour téléphoner ». Si vous allez à Flushing Meadows aux États-Unis, dès que les deux joueurs ont posé leur raquette, on envoie de la musique et de la publicité, et ça devient bruyant et hyper agité. Et donc le moment de repos, c'est là-bas, c'est le moment où ils jouent au tennis. Donc c'est naturellement cette question-là qui est posée, c'est-à-dire cette surcharge inlassable et brutale d'une hyper accélération du nombre d'informations auxquelles on est soumis. Je veux dire, avec votre téléphone portable, vous êtes à tout moment sollicité. Il y a une étude de Proximus qui m'a beaucoup amusé, je ne sais pas comment ils ont fait, mais sur 5 communications téléphoniques, l'un des 10 protagonistes est aux toilettes. Donc ça veut dire que vous pouvez téléphoner aux toilettes. Il faut juste être créatif pour essayer de couvrir les bruits que ça peut éventuellement faire. Mais donc ça signifie que ce moment, vous savez, dans les hôpitaux psychiatriques, dans les endroits où les gens travaillent, les toilettes sont des lieux de refuge. À certains moments, vous parliez d'une pause tout à l'heure, hein, donc il y a, mm-hmm. y a naturellement les pervers qui dessinent des planches de toilettes tellement inconfortables qu'on ne peut pas y rester assis. Hein, donc il faut à ce moment-là abattre le couvercle pour s'asseoir sur le couvercle, pour pouvoir rester un moment se poser. Donc dans les hôpitaux, pour éviter que les gens ne s'asseyent durablement, on a retiré les planches. Donc c'est très inconfortable. Donc, si vous allez chez McDo à Paris, il n'y a pas de chaise, hein, ce sont des barres sur lesquelles vous posez le bas de la fesse, qui sont légèrement mis de travers, vous vous appuyez, mais elles sont dessinées de telle sorte qu'après 20 minutes, ça vous fait très mal. Et donc vous bougez. Hein, donc c'est cette culture du mouvement permanent, de l'agitation permanente, qui naturellement est la nouvelle complexité du monde. Donc ça, c'est très clair.
Eh bien, puisqu'on parle de pause, je vous propose de marquer notre deuxième pause musicale avec votre choix, Jean Ferrat.
Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris. Que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées. Que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé. Que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter. Oui, c'est beau la vie.
Troisième partie de cette émission Plein Feu, aujourd'hui en compagnie de Jean Van Emmelreich. Comment expliquez-vous qu'il y ait moins de possibilités de débat dans l'espace public, que les prises de parole soient plus clivantes ?
Ah ben vous avez un nombre invraisemblable de menteurs qui ont pris le pouvoir. Trump, Poutine, Bolsonaro, maintenant il y a un autre fou en Argentine. Là il y a Orban,
il y a une belle brochette.
Comment ?
Je disais, il y a une belle brochette.
Ah oui, il y a le Mlins Belang, où avec deux neurones et demi, vous avez leur programme. Ce sont des banquiers de la colère. Souvenez-vous de George Bush, lorsque sa cote de popularité diminuait, venait à la télévision dire « on a évité un attentat ». Donc il produisait de la peur. Donc pour moi, il y a une première question, c'est l'économie de la peur. La deuxième, il y a toute une série d'événements qui sont extraordinairement dramatiques au-delà de ces menteurs, que sont Poutine et Trump. Il y a la guerre à Gaza, surtout le 7 octobre, parce qu'on parle beaucoup de la guerre à Gaza, mais il faut quand même se rappeler qu'il y a d'abord les attentats, le pogrom réalisé par Hamas, qui est quand même monstrueux, et qui font que la peur plonge le monde dans une obscurité qui est de retour. Quand on a peur, et qu'on est en colère parce que le monde est injuste avec moi, c'est plus facile d'avoir des idées simples. Et si vous regardez Trump, il produit des idées simples. Si vous regardez Poutine, il produit des idées simples. La complexité leur fait peur. Et donc, regardez Poutine. Hein, je veux dire, il a gagné les élections démocratiques en étant le seul candidat. Hein, donc, le peuple a pu démocratiquement élire un seul candidat et il a banni du territoire tous ceux qui demandent « Et si on réfléchissait ?» La réflexion, je veux dire, quand vous entendez que Trump a dit que la majorité des importations... Non, la majorité des importations des États-Unis venaient de l'extérieur, il faut quand même avoir un cerveau particulièrement pauvre. Hein. Il a dit qu'il fallait lutter contre l'importation de drogue en provenant des pays d'Asie du Sud-Est, donc la Thaïlande, le Vietnam, le Laos, le Cambodge et la Bolivie. Donc il a mis quand même la Bolivie en Asie du Sud-Est et montré combien cet homme a une culture élevée. Donc je veux dire, il y a une telle aberration, la bêtise est tellement poussée à des... les troubles cognitifs, quoi, je veux dire, quand on voit ce genre de choses. Donc, pour moi, c'est essentiellement une problématique politique où on cultive la peur et on dit, ne vous mettez pas en colère individuellement, confiez-la moi, je vais en faire un programme politique. Première phrase de Trump, c'est, je serai le premier jour de ma réélection, je serai un dictateur. Donc, tous ceux qui ont été contre moi, je les détruirai. C'est juste absolument monstrueux, donc c'est la destruction. Si vous écoutez le Vlaams Belang, c'est la même chose, hein, je veux dire, il ne faut pas aller aux États-Unis. Hein, les troubles cognitifs en Flandre sont élevés avec quand on entend le discours qui est un discours simple, mais qui dit, voilà, vous avez peur, vous avez raison d'avoir peur, confiez-moi votre peur, j'en fais un programme politique. Et dès lors, quelque part, à mes questions sans réponse, tout à coup j'ai une réponse. C'est la faute des Juifs, c'est la faute des Arabes, c'est la faute des machins, c'est la faute des Afghans, c'est la faute des Mexicains. Hein, si vous écoutez ce que Trump dit, c'est que les Mexicains dégénèrent la population. Hein, donc il y a un appauvrissement génétique, enfin il y a un vrai discours eugénique absolument abominable. Et ça vient répondre à des questions qui ont à voir avec l'effondrement. Là, vous parliez tout à l'heure des grands changements de modernité. Je pense, moi, quelque part, qu'il y a deux moteurs à la vie. Deux. Le premier, c'est celui que les psychanalystes ont décrit avec vigueur, qu'on appelle le désir. Hein, tout ce que je n'ai pas et que j'aimerais avoir, le manque et le désir. Et l'autre moteur, c'est la fierté. Et donc, tout homme qui se respecte a besoin d'avoir un certain degré de fierté de lui-même. Et on a quatre salaires, hein, quand on travaille. On a l'argent qu'on reçoit à la fin du mois, la reconnaissance des collègues, la notoriété sociale du métier que vous faites. Là, vous êtes beaucoup mieux payé que moi, quoi. Journaliste, c'est beaucoup plus valorisé que psychologue. Un psychologue, ça reste toujours un peu douteux. Journaliste, c'est quand même quelqu'un qui a un métier relativement valable. Et puis, il y a la satisfaction de nos clients. Donc, c'est les quatre salaires. Et donc, ce qui vient dire qu'au fond, on a besoin de reconnaissance. C'est un élément extraordinairement important. D'avoir sa place et d'avoir une reconnaissance. Et ces éléments-là sont particulièrement mis à mal, vraiment mis à mal. Et quand vous n'avez pas de reconnaissance parce que votre métier, votre situation financière n'est pas bonne, et qu'on vous dit, bah oui, mais c'est à cause des Arabes, on va les chasser, vous retrouverez votre place. Ah ben oui, tiens, je vais tout à coup être reconnu dans ma douleur de ne pas avoir trouvé d'un emploi, c'est quelqu'un qui m'a pris mon travail. Et donc l'argent qui me revient, le travail qui me revient, on le donne à un immigré. Ah ben oui, c'est simple. Et naturellement, c'est pas vrai. C'est naturellement faux, je veux dire... Il n'y a pas un seul conducteur de tram ou d'éboueur à Bruxelles qui n'est pas arabe, parce que plus aucun Belge ne veut travailler comme conducteur de tram. Mais on ne dit pas ça. Non, non. On réduit considérablement. Et donc je pense qu'il y a un appauvrissement du discours politique.
On entend souvent dire que l'individualisme a gagné de la place dans notre société. Est-ce que vous confirmez cette tendance? Et quelle place reste-t-il pour la solidarité aujourd'hui?
Oui, je confirme, bien évidemment, avec cette aberration langagière qu'on appelle les réseaux sociaux. Hein, tout sauf social, je veux dire. Je me souviens qu'un des premiers articles que j'ai écrit, c'était sur le fait que les séries télévisées avaient changé. Et tout à coup, on n'était plus dans des séries qui s'emboîtent, des feuilletons où il faut avoir vu le premier pour comprendre le deuxième. Et donc tout à coup, on faisait des one-shots. Aujourd'hui, il y a des séries qui tiennent les gens à domicile pendant des jours. Donc l'individualisme et la capture individuelle... Où les gens vont moins au cinéma, moins au théâtre, sortent moins parce qu'ils sont capturés chez eux et dans des cocons à l'abri du monde parce que le monde est dangereux. Oui, bien sûr, l'individualisme a gagné fondamentalement.
Et ça existe un individualisme familial?
Non.
Où on met la famille, le noyau familial au centre de ses préoccupations, où on peut encore donner du temps et montrer de la solidarité pour la famille, mais pas pour le reste du monde.
Il y a beaucoup de gens qui veulent ça et qui le font, évidemment. Il y a beaucoup de gens qui trouvent des solutions pour lutter contre l'individualisme. On n'a qu'à aller fréquenter un festival de jeux. Hein, vous savez, les jeux de société où, en fait, c'est en plein essor. Parce que beaucoup de gens se rendent compte de la nocivité de cet individualisme et essayent de retrouver des rituels d'appartenance, de jouer ensemble. Vous-même, par le fait que vous proposez des émissions comme celle à laquelle vous avez la gentillesse de m'inviter, c'est de produire du social, c'est de produire de la solidarité, de produire une pensée collective, avec éventuellement deux personnes qui vont entendre que je dis, ils vont dire, mais il dit quoi cet idiot, on n'est pas d'accord avec lui, il va y avoir un débat. Mmh. Et donc, il y a beaucoup de gens qui luttent contre cela, mais l'économie prime et l'économie aime beaucoup l'individualisme, parce que c'est rentable.
Jean Van Emmelreich, comment peut-on renforcer le sens de la nuance, et particulièrement chez les jeunes?
En leur demandant leur point de vue, en arrêtant de penser pour eux, en écoutant leur créativité. Ils ont des choses à dire, les jeunes, et des choses intelligentes. De leur donner l'impression que leur parole a de la valeur, que leurs idées sont valables. De les faire partenaires, de les faire participer à la société. Ils ont des choses à dire, ils ont des choses à faire. Et ce qu'ils disaient, souvent, très, très, très intelligent. Il manque peut-être de la nuance qu'un adulte peut avoir quant à l'application ou à la capacité de mettre en mouvement ce qu'il propose. Mais quand on écoute les ados et qu'ils sentent que leur parole est prise en compte, bah, la nuance est tout de suite là. Parce que j'ai un tout petit peu vécu la découverte des jeux internet et enfantin. J'avais deux options, si vous voulez. La première, c'était de leur interdire de jouer parce que je trouvais que c'était mauvais pour la santé mentale. Soit de m'y intéresser et de jouer avec eux. Et de rentrer dans leur univers. C'est ce que j'ai fait. J'ai joué avec eux médiocrement. Hein, je veux dire, ma souplesse tactile par rapport à des jeux qui étaient encore relativement élémentaires. Donc j'ai valorisé la démarche de mes enfants. Je me suis intéressé à ce qu'ils avaient. Et ils étaient très heureux de m'accueillir. Et du coup, la légitimité que j'avais à dire « on va peut-être un peu limiter cela » était tout à fait jouable. Tout à l'heure, vous parliez du Covid. Est-ce que vous avez entendu un politique qui a demandé aux jeunes « vous en pensez quoi ?» Non, on leur a dit « bande de salauds, c'est à cause de vous que le virus circule, restez chez vous et bougez plus ». On ne leur a pas demandé leur avis. Et les ados, ils avaient des choses à dire. Et donc, quand vous traitez des ados et que vous leur dites « raconte-moi comment toi tu penses qu'il faut faire », c'est toujours exceptionnellement intéressant. Il y a bien sûr quelques idées farfelues, parce que sinon ils ne seraient pas ados. Mais mélimélo, il y a des choses super intelligentes. Quand vous travaillez avec des familles, les ados sont de vraies ressources. Dans un premier temps, ils arrivent chez le psy avec l'inquiétude d'être encore une fois catalogués, enfermés, réduits au silence. Mais quand vous leur dites « et toi t'en penses quoi ?», ils sont tellement surpris, dans un premier temps, ils ne savent pas quoi dire. Et quand vous vous rendez compte que leur parole vous intéresse, ils deviennent collaborateurs, créatifs et surtout producteurs de bien-être dans la famille.
Jean Van Emmelreich, on parlait de la famille, on a parlé du couple, on a parlé des jeunes. Quelle place reste-t-il dans la famille aujourd'hui pour les personnes vieillissantes, pour les grands-parents, pour les personnes âgées?
Je pense que ça bouge. Pendant un moment, ça a été... Vous savez, dans toutes les cultures du monde, la vieillesse a toujours posé problème. Hein. Je veux dire, au Japon, quand vous réfléchissez à la société japonaise, vous vous rendez compte qu'anciennement, quand vous étiez atteint d'un certain âge et que votre mobilité n'était pas bonne, votre fils vous emmenait mourir dans la montagne. Donc ça a toujours été une question de quelle place donner aux vieux. En les réduisant très régulièrement à des sages ou à des gens plus calmes ou à des gens plus lents. C'est pas vrai. De nouveau, c'est réducteur. Je crois que les choses bougent. Il y a des films sur la vieillesse. Il y a beaucoup de productions où on voit un jeune et un vieux ensemble. Il y a une valorisation de la transmission. Là où les choses s'inversent, c'est justement en lien avec ma précédente question. C'est une vieille question, si vous voulez, de psy, hein. Si vous allez dans certaines îles du Pacifique, on voit des singes qui arrivent sur une île qu'ils ne connaissent pas. Et les singes sur cette île mangent des racines qui sont enfouies dans le sable. Donc il faut retirer le sable, arracher la racine, la gratter, la décortiquer. Et les jeunes singes, ils font ça, puis ils se jettent la racine et elle tombe dans l'eau de mer. Et instantanément, elle est propre. Et elle a un autre goût grâce au fait que l'eau de mer est salée. Et la question que les éthologues, donc des psys qui s'occupent de l'observation des animaux en milieu naturel, tiens, est-ce que le comportement que ces jeunes singes vont adopter, parce qu'eux, ils bouffent la racine, tout comme ça, elle est tout de suite propre à être consommée et elle a bon goût. Est-ce que les vieux vont adopter ce comportement? Dans certaines sociétés animales, les découvertes faites par les jeunes sont apprises par les plus anciens. Dans certaines sociétés, la transmission dans l'autre sens, du bas vers le haut, ne remonte pas. Chez les singes, par exemple, les vieux vont apprendre des jeunes. Chez les cochons aussi. Les cochons sont d'extraordinaires menteurs, ils sont très très doués pour mentir, et ils sont très très doués pour transmettre dans les deux sens. Mais il y a des sociétés dans lesquelles l'animal, la transmission ne peut aller que du vieux vers le jeune. Et donc, c'est la question que notre société aujourd'hui pose, c'est-à-dire, moi je suis dépassé au niveau informatique. C'est au-delà de mes... D'abord, ça ne m'intéresse absolument pas, mais j'ai des enfants informaticiens. Donc, ils ont envie de m'apprendre. Ça les amuse de m'apprendre. Et donc, à partir du moment où on ne cantonne pas la modélisation, c'est le vieux qui transmet au jeune, mm-hmm. mais que le jeune peut être un transmetteur au vieux. Il y a un moment où les vieux sont obsolètes, quoi, ils sont périmés. Et donc, il faut à ce moment-là se mettre à jour. Et c'est à ce mouvement-là, et ça, à ce niveau-là, il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Il y a beaucoup d'endroits où on va chercher l'expertise du vieux, à condition, ça marche, si le vieux est d'accord de reconnaître l'expertise du jeune. Parce que s'il y a « je suis vieux, donc je sais mieux que toi », ça se bloque, ça se ferme, c'est inutile. Alors après, bah la vieillesse devient un problème économique. Hein, je veux dire, il y a de plus en plus de vieux, ça coûte de l'argent, il n'y en a plus. Donc il y a un vrai problème. Donc je veux dire, quand on voit bien dans tous les pays du monde, quand on charge l'âge de la retraite, vous savez pourquoi on a choisi 65 ans au départ? C'était l'âge moyen de la mort.
Ah oui.
Oui, c'était...
Ça a bien évolué.
Ah ben oui, c'est l'âge moyen de la mort. Donc ça veut dire que vous payez toute votre vie et normalement vous mourrez au moment où vous pourriez toucher. Oui, la démographie, c'est pas toujours une science sympathique. Hein. Et donc à partir du moment où les gens vivent plus longtemps, ben zut, ça met le modèle par terre, quoi. Donc il y a une grosse hypocrisie sociale, hein. Je veux dire, les vieux encombrent. Je peux en parler, j'en suis un, hein. Je suis retraité. Mais je crois que ça bouge un peu. Alors après... On pourrait parler pendant des heures aussi sur la vieillesse. Hein.
J'imagine.
Est-ce que la mort est perçue comme un échec? Parler de vieillesse
Ça, c'est pas un psy que vous devez poser la question, c'est un philosophe. Non, la mort n'est pas un échec. La mort est un échec lorsqu'elle est accompagnée d'une idée qui est... Vous voyez, dans ma vie, un jour, je suis chez moi, ma mère me téléphone. Ma mère est veuve, me téléphone, elle habite au fin fond des Ardennes, dans une maison isolée. Et elle me téléphone, elle me dit « j'ai une forte grippe ». Mais je suis un peu surpris par son appel, c'est pas son genre, ce genre de choses qu'elle ne m'aurait pas dit normalement, c'est une grande autonome, une grande... Et donc je suis un peu surpris, je dis à mon épouse, ça me semble bizarre, je vais aller jusque là. Elle habite à une centaine de kilomètres de chez moi. Je prends ma voiture et je vais jusque... Et je trouve ma mère en très mauvais état, je la fais hospitaliser et elle va décéder pendant la nuit. Et depuis cet événement, où on a pu donc, quand elle est hospitalisée, je l'ai pris dans mes bras, on s'est dit des mots d'amour... Et donc on a ce moment d'échange et puis je lui dis écoute voilà je rentre mais je reviens demain matin et sur le trajet on dit ben là elle vient de faire un accident cardiaque et le temps que je revienne ma mère décède. Et la question que je me pose c'est qu'est-ce qui me serait arrivé si je l'avais pas fait, si j'avais pas été, si j'avais eu cette intuition et puis que je l'aurais balayé d'un regard de la main, d'un revers de la main en me disant mais non elle a une grippe, si j'avais pas été. Ça s'est passé il y a une vingtaine d'années, je crois que ça ferait 20 ans que je rongerait mon regret. C'est les regrets qui sont un échec. C'est revenir dans un endroit où on n'a pas été. Ça, c'est très très dangereux. La mort est dangereuse. La mort est dangereuse quand vous avez l'impression que votre comptabilité n'est pas en ordre. Pas votre comptabilité avec Dieu et un curé qui vient vous donner l'extrême onction. Hein, c'est pas ça. La comptabilité de ce que vous auriez dû faire, que vous n'avez pas fait, de ce que vous avez fait, que vous n'auriez pas dû faire. Donc c'est toute cette économie-là qui peut donner à la mort une couleur, un sentiment d'échec. Parce que sinon, on n'en parle pas, la mort n'existe pas. Vous savez très bien hein, la phrase de Yehudin Menuhin, à qui on demandait « Vous vieillissez, vous avez peur de la mort ?» Il dit « Écoutez, moi personnellement, je n'ai jamais rencontré, j'en ai entendu parler, mais personnellement, je ne sais pas ce que c'est, donc je n'ai jamais croisé. Je ne me dis pas chaque minute que je vis, c'est une minute de gagner. » Donc non, la mort n'est pas un échec. Enfin, pour moi, elle n'est pas un échec. Elle serait un échec si je n'avais pas fait de ma vie ce que j'avais envie qu'elle soit. Et demain matin, j'ai des défis. Donc ça ne s'arrête pas ce soir. Je pense quelque part que ma femme et moi, on a développé une idée complètement idiote. De mes 18 à mes 20 ans, j'ai vécu en Algérie, au fin fond du désert, dans une ville qui s'appelait Gardaïa et puis Tamanrasset. J'ai développé un amour sans borne pour le désert de sable. Et avec ma femme, on a décidé de visiter tous les déserts du monde. À la vitesse où on va, qui est naturellement entravée par ces salopards de djihadistes, je ne peux pas dire djihadistes sans mettre salopards devant, je suis désolé. Ces salopards de djihadistes, ils m'ont tué un ami, et donc pour moi c'est des crapules. C'est naturellement un peu ralenti, mais on a encore besoin de 220 ans pour y arriver. Après je verrai ce que je vais faire. C'est donc complètement absurde, mais en même temps c'est mon rapport à la mort.
Rendez-vous dans 220 ans alors.
Ouais. Ah, 219 et demi, parce qu'il faudra qu'on se parle avant que je sois mort.
Jean Van Emmelrijk, merci pour cette rencontre, merci à Manu Van Leer qui m'a accompagnée, et à très bientôt pour une prochaine rencontre. Bonsoir.
Merci beaucoup.